Agne nostro, dorime, dorime.
Watch me, pretty woman, walking down the street.
Ah! Oh, capitaine, mon capitaine.
So may we start. So may we start. It's time to start.
Auditeurs, auditrices, bonsoir. Vous êtes sur Radio G, il est 19h et vous vous apprêtez à passer la prochaine demi-heure avec nous dans votre émission cinéma Clap and Chat. Je suis Ninon et comme d'habitude, je ne suis pas seule en studio pour discuter. Aujourd'hui avec moi, j'ai Laure et Kevin. Bonjour.
Hello
à vous
tout
deux.
Le monde.
Salut.
Comment ça va aujourd'hui?
J'ai très froid.
On en résiste sous une chaleur accablante, j'ai envie de dire. Prenez soin de vous d'ailleurs, hein, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas
l'eau.
À bouffer. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Hydratez-vous un maximum et avec de l'eau. Voilà. Bon, sinon je suis ravie d'être là, hein, même sous cette chaleur folle. Je suis ravie d'être ici. On s'approche doucement de la fin de la saison, mine de rien.
Déjà.
Donc je profite pleinement de ces dernières émissions avec vous avant la pause estivale. Au programme du jour, on va parler de trois films, dont un qui n'est pas encore sorti, mais qu'on a pu voir en avant-première au Pathé Angers. On s'en reparle dans quelques minutes. Il s'agit du film Les Caprices de l'Enfant Roi. Mais avant ça, on reviendra sur le nouveau Spielberg avec Disclosure Day. Et on terminera avec un autre ovni, mais qui n'a rien à voir, qui est celui de Quentin Dupieux, Le Vertige, le nouveau film d'animation. Encore un programme assez varié, il y en a pour tous les goûts. Hein,
ça,
là, on est bien éclectique, c'est sûr. Toute l'équipe est prête, on espère que dans votre voiture ou chez vous, vous êtes aussi prêts ou prêtes. Et si c'est le cas, attention, parce que Clap and Chat épisode 20, c'est parti. Moteur.
Action. Clap and Chat sur Radio G.
101.5 FM.
Et oui, vous avez bien entendu, hein, j'ai dit épisode 20 déjà. Ça fait 20 épisodes qu'on est ensemble, c'est incroyable. C'est assez hallucinant de se dire qu'on a parlé de tant de films. Enfin bref, c'est pas l'heure des bilans.
On se félicite,
c'est
trop
bien. Ça, on se félicite déjà. Pour l'heure, on va se parler du nouveau film de Steven Spielberg, Disclosure Day, qui est sorti en salle le 10 juin. Et pour présenter un peu ce film, je vais laisser la parole à Kevin.
Et oui, Disclosure Day, tu l'as dit, Ninon, c'est le nouveau film du jeune et prometteur réalisateur Steven Spielberg.
Mais dis donc, t'as des dons de voyance.
Ah ouais, non mais je sens qu'il va faire quelque chose ce garçon. Et donc, nouveau Spielberg et fiche technique qui place la barre assez haut quand même, quand on regarde bien, puisqu'on a donc Emily Blunt, Josh O'Connor et Colin Firth notamment au casting, donc plutôt très bon casting. John Williams à la bande originale. Donc bon, on est sur des gens qui...
Prometteurs aussi, quoi.
Ouais. Des gens qui... Voilà. Moi, je mettrais bien 2-3 euros sur eux, quoi.
Y a pas seulement sur une carrière.
Donc on est sur du lourd. Alors en français, on a gardé le titre original Disclosure Day. Ça
super
parle pas forcément.
Facile à prononcer.
Ouais, ça parle pas forcément aux noms anglophones. La version québécoise a été plus gentille puisqu'elle devrait vous éclairer. C'est la révélation.
Et vous savez que moi j'ai cherché ce que ça voulait dire disclosure parce que je ne connaissais pas ce mot et en effet je trouve que ça manque par rapport au film.
Ouais.
Et ben moi qui suis pas très anglophone et encore moins que Laure, pour le coup moi j'ai trouvé ça assez évident. Tu vois, c'est drôle.
Ah ouais.
Je connaissais pas le mot, mais du coup, je sais pas, disclosure, t'as un truc de découverte, de truc, et dans les sonorités, j'ai trouvé ça assez facilement comprendre, ouais. Compréhensible plutôt.
C'est très intéressant ce que tu dis. En
oui, vrai, on est sur un cours de français, excusez-nous.
Par rapport à comment sont construites les langues, c'est super, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Oh, le petit clash.
Non, mais c'est
tu
vraiment,
veux
c'est hyper.
Les prochaines ou pas
c'est vraiment hyper intéressant. Et moi, je pourrais faire des émissions sur
Alors,
ça.
Alors, juste rappelez-vous, au début et au milieu de la saison, Kevin, c'est quand même le préféré. Hein, donc là, attention, ça change.
Non, reprenons le cours des choses.
Donc, la révélation, Disclosure Day, c'est l'histoire de la divulgation, on peut dire ça comme ça, ou à minima la tentative de divulgation, de documents confidentiels attestant de la présence de vie extraterrestre depuis plusieurs décennies sur Terre. J'en dis pas plus parce que je veux qu'on laisse quand même un petit peu de suspense sur le film, mais ça donne déjà un petit peu l'idée de ce qu'on peut avoir. Et donc, en somme, Spielberg revient avec Disclosure Day sur la science-fiction extraterrestre, comme on l'aime, ou presque. et donc, alors, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Eh ben, je vais faire un petit peu une réponse de Normand, mais en gros, ça dépend. Ça dépasse. S'il y en a qui ont la ref.
pour la moi, chaleur nous touche. Hein.
C'était génial.
pour moi, il y a deux films. Il y a le film de science-fiction et le film d'action.
Ouais.
Dans ce film. Et alors, le premier est plutôt réussi. J'ai bien aimé le côté science-fiction, c'était pas mal. Mais le second est absolument raté.
Ok.
Voilà, je vais être tout à fait franc, on va enlever le pansement tout de suite. Pour exemple, il y a une scène de course-poursuite en voiture que je trouve catastrophique. Vraiment, c'est ni fait ni affaire. Et globalement, sur la partie.
Spielberg.
Oui, non, bah,
mais non, mais c'est ça qui est fou.
Les nouveaux réalisateurs. Et tu vois qu'ils ont encore des choses à apprendre, c'est pas grave. Et donc, globalement, le film, pour sa partie action, en fait, il est cousu de facilité scénaristique à n'en plus finir, alors que le film dure 2h25. Et c'est quand même dommage, quoi. C'est quand même dommage. La partie science-fiction, du coup, même si du coup elle est plus timide, en fait, c'est pour moi presque plus un film d'action qu'un film de science-fiction.
Ah, clairement, ouais.
Donc la partie science-fiction, elle est du coup plus timide, mais mieux maîtrisée. Et c'est quand même dommage, du coup, de l'avoir mise presque au second plan. On a, alors, c'est des choses assez classiques, mais qui sont bien posées, bien amenées. C'est intéressant, mais ben, ça s'arrête là, en fait, sur la partie scénario. Heureusement. Emily Blunt, qui est particulièrement bonne, je trouve. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé son interprétation dedans. Et au-delà du scénario, qui lui est très bancal, la réalisation, bon, bah, on a quand même affaire à Spielberg. On reconnaît un petit peu la patte spielbergienne sur le film. Donc, c'est plutôt, plutôt OK. Mais le scénario, non merci, en fait. Voilà.
Ok, très bien. Je ne dis rien pour l'instant, je donnerai mon avis après. Pour l'instant, Laure, qu'est-ce que toi, tu en as pensé ?
Eh bien, la dame n'a pas compris. Voilà. Donc déjà, ne connaissait pas le titre. Mais au-delà de ça, du coup, j'aime bien avoir ton éclairage là, Kevin, parce que ça me donne moins un éclairage sur ce que j'ai vu. Moi, honnêtement, je n'ai pas compris le scénario. Et quand tu parles de deux films, oui, très clairement, c'est le cas. Et le côté film d'action,
Ouais.
À la fois dans le scénario, à la fois dans la manière dont il est fait. Je ne sais pas si on parle de la même course-poursuite avec les voitures à la sortie d'une maison, si
oui,
c'est
oui,
celle-ci.
Par exemple, celle-ci.
Mais non, mais il y a des trucs... je veux dire, même moi, je me dis, attends, c'est pas normal que ça fonctionne comme ça. Et pourtant, je ne suis absolument pas dans le monde du cinéma. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était long. Je n'ai pas vraiment trouvé d'intérêt dans l'intrigue. Mmh. L'idée de base, oui, elle est bonne, pourquoi pas. En plus, il y a un petit moment qu'on voit dans la bande-annonce qui est quand même... on se dit, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quand même fou. Et du coup... il n'y a rien derrière. Enfin, ouais. Vraiment, moi, j'ai attendu la fin et la fin même m'a laissé sur ma faim.
Oh là, c'est beau.
Ça, je suis poète, poétesse. Pour le côté Spielberg, image, alors peut-être parce que comme je n'ai pas compris et que le film ne m'a pas happé, j'ai même pas réussi à profiter de ça, du travail d'image, du travail de réalisation. Et du coup, alors je n'ai pas vu tous les films de Spielberg, pardon, loin de là, mais j'avais quand même une attente très forte. Enfin, c'est quelqu'un quand même qui a énormément de métiers et de qualité de métier. Et vraiment, je l'ai pas vu, je l'ai pas réussi à l'apprécier, donc ça m'a déçu. Et tu parles d'Emily Blunt. Alors oui, j'ai trouvé que son interprétation était très bonne. Maintenant, c'est une actrice de grande qualité, donc ça m'a pas surpris non plus. Par contre, j'ai trouvé que son personnage était pas assez développé. Je trouvais que ça pouvait aller plus loin. Je trouve que son personnage finalement avait pas assez de corps. Il y a des moments où ça devenait une femme un peu presque niaise. Et j'ai trouvé ça hyper dommage par rapport à ce que vit son personnage et à ce qui aurait pu être fait dans le film. En tout cas, j'aurais aimé un personnage féminin avec plus de corps. Je ne sais pas si c'est parlant pour vous ce que je dis.
De manière générale, je trouve qu'aucun des personnages a vraiment un background très, très poussé.
Oui.
Tu vois.
J'ai oublié le nom du personnage, mais le personnage de Colin Firth, un peu plus, je trouve.
Ouais, je
très
vite. J'ai pas trouvé fou, mais j'ai trouvé un peu plus.
parce qu'il fait ce qu'il fait très globalement. C'est un film américain, donc on a un gentil à méchant, Colin Firth, d'où joue le méchant. Et on ne sait pas vraiment pour quelle raison il fait ce qu'il fait.
Il y a un peu une histoire avec sa femme qui semble avoir changé des trucs en lui. C'est... Alors effectivement, c'est très rapidement évoqué. On n'a pas trop d'infos.
Il manque des infos.
Je pense que c'est un truc partagé. Moi, je l'ai ressenti sur un peu tous les personnages, pour le coup.
Ouais.
Donc je te rejoins là-dessus, mais j'élargis encore plus le champ. Et ben pour le reste, je suis absolument pas d'accord avec vous.
Non.
J'ai passé un très très bon moment devant ce film. Je suis d'accord sur le fait du film d'action, etc. Oui, il y a des trucs qui sont un peu what the fuck et tout. Mais j'ai vraiment passé un bon moment. Le scénario est très américano-américain. Donc comme on a dit, les méchants, les gentils, patati patata. Mais j'ai trouvé la narration intéressante. La narration qui fait que on comprend pas jusqu'à la fin. En fait. La scène d'ouverture est folle où vraiment on rentre direct dans le sujet, on rentre direct dans l'action et on voit des artefacts et tout et tu comprends pas. Et en fait, au fur et à mesure du film, tu débloques des trucs, tu débloques des réponses et des réponses. Moi, j'ai eu ce sentiment-là.
Vous voyez pas, mais moi, là, j'ai les yeux, genre, je tombe des nues, quoi. D'accord. On n'a pas vu le même
film. J'ai beaucoup aimé ce style de narration de « on comprend rien et on nous explique pas ». C'est pas brutal, quoi, tu vois. C'est pas le mec qui dit « Oui, moi, j'ai fait ça pour ça, etc., etc., etc. J'aime bien cette voix, je vais la garder longtemps, je crois. »
C'est
catastrophe, cette émission.
Mais attends, du coup, même à la fin...
Ah, moi, j'ai tout compris.
Rien... Ouais, d'accord, mais du coup, alors, ok, t'as tout compris, mais il t'a rien manqué, genre, t'aurais pas voulu que ça aille plus loin. Moi, il y a des trucs, j'ai l'impression, ils ouvrent des portes et en fait, ils vont pas chercher. Enfin, ils ne vont pas chercher plus loin.
Non, ça m'a pas. Il y a rien qui m'a manqué. Alors, je dis pas que le film est exceptionnel, hein, loin de là, mais j'ai passé un bon moment devant.
Okay.
Je trouve que c'est un bon SF. La réalisation, moi, en plus, j'ai eu la chance d'aller le voir en IMAX. Ouais, donc, la réelle, il y a des jeux de lumière.
Ça vaut le coup en IMAX ou pas ?
Ouais, moi, j'ai vraiment, vraiment kiffé l'IMAX. Mmh. Il y a des jeux de lumière, il y a des jeux de reflets beaucoup et tout qui sont hyper intéressants. Et en IMAX, du coup, ça rend vraiment bien. J'ai aimé le rythme du film malgré les deux heures et tout.
La fin, c'est un peu long, je trouve.
Là, je suis assez d'accord. Mais
dans le hangar ?
Ouais. Non, dans le studio de télé.
Dans le studio de télé, ouais. Le film se termine dans les studios de télévision. Ce n'est pas un spoil. Un spoil, donc on peut le dire. Voilà. Mais ouais, j'ai bien aimé. Et j'ai aimé sur ce dernier tiers un parallèle religieux qui est hyper intéressant et qui est hyper.
Qui est là depuis le début.
Mmh. Oui, mais qui est vraiment beaucoup plus explicite sur ce dernier tiers, j'ai trouvé. Et je trouve ça hyper intéressant. J'ai adoré. Du coup, j'ai écouté un autre podcast qui parlait de cinéma aussi et qui parlait de Disclosure Day. Et il disait que ce film allait être très reçu différemment aux États-Unis qu'en France, où il y a ce truc très complot, truc très extraterrestre, ouais, etc. Ouais. Et très religieux aussi. Ouais. Et que l'accueil n'allait pas du tout être pareil et que le film n'allait pas être pareil. Et je trouvais ça très intéressant.
C'est évident.
Et tu vois, tu disais que toi, tu avais passé un bon moment parce que petit à petit, tu avais des réponses qui étaient apportées.
Des verrous, ouais.
Alors que moi, dès le début, j'avais la fin, quoi.
Ouais, ok.
Moi, je suis pas étonnée de la fin, non plus.
Ouais.
Alors, je suis pas du tout étonnée de la fin parce qu'on sait où on va et c'est le but et c'est le titre du film. Donc, clairement, je suis pas étonnée. Mais sur ce qui se passe, sur ce qui arrive, sur les personnages, etc., là pour le coup, l'artefact au début, la première scène où tu vois l'artefact, tu sais pas ce que c'est, hein, clairement.
Non, mais j'ai vu les 5 premières minutes et j'ai vu le camp des gentils, le camp des méchants de manière très là. Et du coup, j'avoue, moi, c'est bon, ils vont faire ça, il va se passer ça, il va se passer ça, merci, au revoir. Un scénario un peu feignant, quoi.
Bah, c'est un scénario américain très méchant.
C'est pas Spielberg le scénario. Hein. Spielberg n'est qu'à la réalisation.
Oui, ça a été écrit comme beaucoup de ses films d'ailleurs.
Ça a été écrit par quelqu'un d'autre. Je ne sais plus qui, j'ai oublié son nom.
Mais qui bosse beaucoup avec Spielberg. J'ai plus son nom également.
J'avais demandé si ce quelqu'un d'autre avait fait d'autres films.
Il travaille beaucoup ensemble. Avec Spielberg, ouais. Okay. Ils font beaucoup de choses ensemble. Et ben voilà, du coup, on n'est pas du tout d'accord, mais c'est très intéressant. donc moi, je l'ai vu en IMAX, franchement, c'était très chouette. Il n'est plus en IMAX, il n'est plus distribué en IMAX, puisque c'est Toy Story qui a pris le relais. Mais vous pouvez quand même aller le voir au cinéma en normal. Hein. Je pense que si vous voulez un bon film de SF, moi, je trouve que le côté SF est vraiment pas mal. Donc, si vous voulez voir un bon film de SF, allez voir Disclosure Day, c'est toujours en salle. Et sans transition, nous allons changer totalement d'univers, puisque nous partons au XVIIe siècle, alors que Louis XIV n'est pas encore roi. Nous parlons de la comédie Les Caprices de l'Enfant Roi, qui n'est pas encore sortie au cinéma, mais qu'avec Laure, on a pu voir en AVP au Pâté.
C'était chouette.
Avec la présence du réalisateur Michel Leclerc. On a même pu participer à une petite conférence de presse avant la projection, qui était très chouette aussi. D'ailleurs, Michel Leclerc était très, très cool dans ses réponses et tout. Ouais. C'était super. Donc, merci beaucoup.
Quand je dis c'est chouette, tu vois, c'est vraiment j'englobe ça. C'est très agréable d'avoir des réalisateurs ou réalisatrices qui sont là, qui sont disponibles et qui sont intéressants et intéressantes dans leurs échanges.
C'est ça. Donc, merci beaucoup au Pâté de nous faire participer à ce genre de choses. Et merci à Michel Leclerc d'être venu nous présenter son film. Et du coup, ce film, Les Caprices de l'Enfant Roi, pardon, ça sort mercredi même, le 24 juin, donc aujourd'hui, à l'heure où cette émission sort. Mais qu'est-ce que nous raconte ce film ? On vous met un petit extrait de la bande-annonce et on en reparle tout de suite après.
Maman !
Chut, bois fort ! On n'appelle pas maman la reine de France.
Est-ce qu'ils vont venir nous tuer ?
D'Artagnan, Louis doit quitter secrètement le palais cette nuit même et se cacher hors de Paris.
Ne vous inquiétez pas, votre Altesse, sur tout prévu. Louis va quitter le palais secrètement cette nuit même et se cacher hors de Paris.
Oui, c'est ce que je viens de dire.
Cyrano de Bergerac, j'ai besoin de toi pour une mission secrète de la plus haute importance. Tu es le seul à qui je peux demander ça.
Si tu peux tout me demander, sauf de m'occuper d'un enfant ou d'un roi.
Je te présente le dauphin de France.
Je ferai tout ce qui est en mon possible.
Reste où tu es. Je ne suis pas habitué à tant de laideur.
Je m'occuperai pas de cette vilaine petite personne.
Au casting de cette nouvelle comédie Les Caprices de l'Enfant Roi, on retrouve Artus, Julia Piaton, Franck Dubost ou encore Doria Tillier, pour ne citer que eux et que elles, puisqu'on a un casting qui est vraiment choral, comme on dit. Et on retrouve tout ce beau casting qui va devoir protéger le dauphin de France, le futur Louis XIV, des frondes qui le menacent. Tout ça à l'intérieur d'une troupe de théâtre itinérante. Et la particularité de ce film, c'est que ce sont des personnages connus de l'histoire comme D'Artagnan, Cyrano de Bergerac, Madeleine Béjart ou encore Molière. Le réalisateur Michel Leclerc s'amuse ici à imaginer ces personnages historiques connus de tous. Qu'est-ce qui se serait passé si elle et il s'étaient rencontrés dans la vraie vie ? Le film, je le redis, est sorti aujourd'hui 24 juin. Et Laure, peux-tu nous dire ce que tu nous en as pensé, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. Bah, écoute, moi j'ai passé un bon moment. Je trouve que c'est une comédie sympathique. C'est pas un film qui m'a embarquée, mais franchement, j'ai passé un bon moment. J'étais un petit peu sceptique sur le remaniement de l'histoire quand j'ai vu la bande-annonce et le synopsis. Et puis en fait, ça m'a pas gênée du tout. Mm-hmm. J'ai trouvé ça plutôt chouette. Alors c'est dit dès le début dans le film, dès les premières secondes, en mettant, j'ai plus la phrase exacte, mais tout ce qui est dit dans ce film est vrai, sauf pour les historiens.
Ouais, c'est ça.
J'ai trouvé que c'était une accroche plutôt rigolote. Ça plante tout de suite le décor. Pardon, excusez-moi. Ce qu'expliquait Michel Leclerc, c'est qu'en fait, tous ces personnages-là, finalement, étaient contemporains dans leurs époques, donc potentiellement auraient pu se rencontrer. Donc finalement, ça matche plutôt bien. Juste deux petites choses qui m'ont quand même un peu tiqué. C'est présenté comme une comédie familiale. Sur le site d'Allociné, il y a même marqué que c'était kids-friendly à partir de 8 ans. Il y a à l'intérieur du film deux scènes avec des pendus. Et pour le coup, pour des adultes, c'est pas choquant, la façon dont est filmée la scène. Mais personnellement, je n'emmènerais pas des enfants. Alors que le reste du film, sincèrement, est plutôt très chouette. Donc vraiment, juste ce moment-là, moi, ça m'a un peu tiqué pour des enfants.
Moi, ça m'a pas choqué. Tu vois, je l'ai aussi considéré comme familial. Donc,
mais en
je
fait,
pense que c'est
à
l'appréciation
ça, familial.
Des parents et tout ça. J'avoue que moi, ça m'a pas tilté. Donc c'est intéressant.
Mais tout le reste du film est familial. Hein, c'est vraiment juste ça. Et oui, je me verrais pas mettre ces images-là devant un enfant de 8, 10, 11 ans. Voilà, ça dépend des parents. Et puis, il y a autre chose qui m'a un peu tiqué. Alors, je suis désolée, je mets les pieds dans le plat. Mais il y a une scène entre Louis, qui est un adolescent, un jeune adolescent, et sa cousine, qui est du coup une jeune adulte. Et en fait, dans le film, elle lui fait toucher sa poitrine. Alors, ça dure quelques secondes. On tilte pas ça dans le film. Et puis, on sait qu'à l'époque, les rois, reines se mariaient très, très jeunes. Mais à l'époque de maintenant, moi, j'ai trouvé ça vraiment choquant. Je trouve que c'est pas normal qu'il y ait ce genre de scène. Si on avait inversé que ça avait été une gamine, une ado de 12-13 ans et un adulte, on l'aurait pas vécu de la même manière. Donc je sais que ça passera totalement inaperçu pour la plupart des gens, mais moi c'est important de le souligner.
J'ai
parce
tiqué
que...
aussi.
Ah ok.
J'ai tiqué aussi, ouais.
Et je me suis dit qu'il y a plein de gens qui vont pas forcément tiquer, d'autant plus parce que c'est un jeune homme et qu'on a encore cette image du... L'adolescent qui découvre sa sexualité et qui fantasme sur des adultes. En fait, un adolescent, ça fantasme sur des adolescents et ça s'arrête là, quoi, et ça ne devrait pas aller plus loin.
Moi, je me suis même dit, qu'est-ce que sur un tournage,
comment ça a été amené ?
On parle des personnages, mais tu as aussi le côté acteur
et bien sûr.
C'est Je pense que c'est toute une question et un débat et c'est.
Mais en fait, c'est un peu compliqué. Ça ne devrait pas être un débat, une question. C'est juste, c'est
pas normal. Oui, mais pourquoi on a encore ça, tu vois, enfin, c'est.
Mais d'autant plus que maintenant, on sait qu'il y a des coordonnateurs et coordonnatrices d'intimité sur des films, donc je comprends pas qu'il n'y ait pas quelqu'un qui n'ait pas mis un stop à ce moment-là. Ouais. Parce qu'honnêtement, la scène aurait été faite différemment. Il y a vraiment pas besoin de ça et ça roulait, quoi.
Après, coordinateur, coordinatrice d'intimité, ils sont là si tu les appelles. Hein. Ils sont pas tout le temps là. Hein.
Ils sont pas systématiquement
sur des films. Hein.
Donc, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, en dehors de ça, il y a des choses que j'ai quand même bien aimées. J'ai aimé le casting. Je trouve que les personnages fonctionnent plutôt pas mal entre eux. Mm-hmm. J'ai été un tout petit poil déçue par le personnage de Franck Dubos. Alors, pas par son interprétation, etc., parce qu'elle est qualitative. C'est juste que c'est un personnage qu'on a déjà vu chez lui. Et du coup, je trouve ça dommage d'être allé dans cette facilité-là, alors qu'on découvre petit à petit que Dubos, qu'il a quand même une palette qui est beaucoup plus large. Donc, mon petite micro-déception comme ça. Évidemment, toutes les petites piques sur notre société actuelle sont plutôt sympathiques. Mmh. Franchement, c'est pas mal. Et puis, ce que j'ai adoré, vraiment, je tiens à insister dessus, j'ai adoré la lumière du film et j'ai eu un gros coup de cœur sur les costumes et le travail des décors. Vraiment, j'avais très clairement envie de rentrer dans l'écran pour les visiter. J'ai trouvé que c'était hyper qualitatif. Et je tiens à souligner, pour avoir cherché, que c'est Pascale Consigny qui a été décoratrice sur ce film et dans un autre registre, celle qui avait travaillé sur L'Attachement de Karine Tardieu. Mmh. C'est ça. Et pour celles et ceux qui se souviennent de L'Attachement, c'est des décors qui ne sont pas fous parce que ce n'est pas l'historique ou quoi que ce soit. Mais en fait, on c'est des décors très actuels et on y croit complètement.
Réaliste, ouais.
Exactement.
Et on en avait discuté avec Michel Leclerc, justement, ouais. Le réalisateur des Caprices de l'Enfant Roi, qui nous avait expliqué vraiment tout le travail minutieux qu'elle faisait. C'était hyper intéressant. Et je te rejoins sur ce point-là, décors, costumes. D'ailleurs, c'est tourné dans la région, hein, c'est tourné près d'Angers.
Château de Brissac.
Exact. Et un peu plus loin aussi dans la région, puisqu'il y a beaucoup de. La troupe itinérante de théâtre se déplace, extérieur. Mais du coup, il faut rester.
Les images dans le théâtre magnifique. Et de la scène itinérante, de la troupe itinérante.
C'est sublime. Moi, j'ai adoré vraiment le décor et costume, et principalement les décors. J'ai trouvé ça incroyable. Ouais. C'est superbe. Je te rejoins sur la photographie. J'ai trouvé ça super joli. C'est solaire, comme tu as dit, et tout. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que le scénar était un peu facile, mais voilà. J'ai beaucoup aimé le casting.
On n'attend pas plus.
C'est ça. Je pense que moi, j'ai mis que c'était un bon divertissement familial. Tu vois, tu passes du bon temps et tout. Ouais. C'est chouette. J'ai bien aimé un peu ce crossover de personnages historiques et tout. Et puis, il y a des histoires d'amour entremêlées, des choses.
Ouais,
voilà, moi, j'aime bien.
Tu ne verras pas, mais je trouvais que c'était très chouette et très bien amené.
Ouais. Donc, moi, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé ça assez chouette. C'est plutôt cool. Voilà. C'est un bon film si vous voulez le voir en famille, je pense.
Ouais. Voilà.
Eh bien, si vous cherchez un film là pour vous mettre au frais, parce que ces températures sont folles en ce moment, et c'est actuellement au cinéma, c'est sorti aujourd'hui même, Les Caprices de l'Enfant Roi, et c'est toujours dans les salles de cinéma. Et enfin, pour finir cette émission, nous allons parler d'un nouvel ovni du cinéma français signé Quentin Dupieux, Le Vertige. Laure, puisque tu es très cliente de Quentin Dupieux, je vais te laisser nous présenter le film.
C'était parfait. Alors, Le Vertige, c'est le premier film d'animation de Quentin Dupieux. Il est en salle depuis le 10 juin. Et pour rappel, il a fait la clôture de la quinzaine des cinéastes à Cannes.
Ouais. Donc, on avait des places pour aller le voir, mais bon.
voiture est tombée en panne. comme tu dis, c'est un ovni. Et dans ce nouvel ovni de Dupieux, façon Sims in Real Life, on suit Jacques, interprété par Alain Chabat, qui essaie de prouver à son ami Bruno, a.k.a. Jonathan Cohen, que leur monde est en fait une simulation d'un monde réel. Alors on le sait, les œuvres de Quentin Dupieux sont toujours très originales et ne laissent jamais le public indifférent. Et évidemment, c'est le cas de celle-ci. Il fallait de l'audace pour faire tout un film avec une esthétique aussi datée, rappelant les tout premiers jeux vidéo inspirés de la vie réelle. Alors on a tous les codes, les visages déformés, les silhouettes carrées, les démarches robotiques et beaucoup de références que je tairai ici pour ne pas dévoiler le film. Mais quiconque connaissait les premières éditions des Sims s'y retrouvera. N'est-ce pas?
Globalement, la PS1 entière.
Oui,
hein. On n'est pas que sur des Sims.
Oui, alors tu sais pourquoi dit ça? C'est parce que moi, je ne suis pas très jeu vidéo et donc je jouais qu'aux Sims. Oui,
on a sur du Lara Croft, on a sur tout ça. Ouais. C'est dans la vibe. Hein.
Pour être honnête, j'étais peu motivée par ce film et je ne suis pas ressortie de la séance éblouie. Alors sans doute un manque de rythme et d'intérêt dans le scénario. Moi, j'aurais voulu qu'il attise plus ma curiosité. Je me suis un peu ennuyée à la longue. J'aurais aimé que ce soit plus fourni. Je prends pour exemple le personnage d'Anaïs Desmoustiers qui est peu exploité finalement dans le film. Donc voilà, c'est une des portes que j'aurais bien aimé qu'elle soit ouverte. Ceci étant dit, je trouve vraiment original l'idée de départ, le travail du visuel et cette esthétique dépassée qui sont quand même une petite Madeleine de Proust. Et la musique est intelligemment choisie, je vous laisserai la découvrir, et savamment distillée au long du film. Elle n'est pas beaucoup présente, mais juste par petites touches. Alors comme l'a dit joliment Ninon au début de cette présentation, je suis rarement portée par les films de Quentin Dupieux. Mais comme ses autres réalisations, je pense que celui-ci pourra trouver son public.
Kevin, qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté?
Est-ce que tu es le public?
Alors, je suis le
Kevin
public.
Est plus public.
Je suis plutôt
ouais.
public de Quentin Dupieux, effectivement. C'est pas son meilleur, très clairement. Mais en même temps, en fait, moi, ce que j'attends de Quentin Dupieux, c'est toujours qu'il expérimente quelque chose de nouveau dans ses films. Et je trouve que là, bah, il a très bien réussi le pari de dire, bah tiens, je vais faire encore un nouveau truc. Et voilà. C'est, pour moi, c'est un petit peu le savant fou, tu vois, du cinéma français.
Mais c'est vrai, c'est
une super.
J'ai envie de l'appeler, de lui faire une interview. Venez tout seul. Ah, ça serait trop intéressant.
Mais effectivement, donc, c'est très particulier, c'est très expérimental le cinéma de Quentin Dupieux, mais ça peut trouver effectivement son public. Alors là, moi, je n'ai pas passé un mauvais moment, je n'ai pas passé un très bon moment non plus. L'avantage, c'est que c'est des films relativement courts, Quentin Dupieux, donc, donc ça me va.
1h07 pour
mais
celui-ci.
Ça, ça fait du bien en fait. Quand on voit que des films de 2h30, 3h, franchement,
des fois, ça fait un petit.
Ouais,
voilà,
c'est une respiration qui est pas
exactement.
Mal.
Aussi parce que nous, on va beaucoup au cinéma. Quand tu payes un cinéma une fois tous les 6 mois, je préfère aller voir un film de 3 heures qu'un film d'1 heure. Mais pour nous, ça fait du bien.
mais non, globalement, c'était assez intéressant. C'est une vision. Alors, il y a toujours un propos. Alors, dans l'accident de piano, c'était un petit peu une critique sur le monde de l'influence, etc.
Un petit peu.
Là, on est sur un peu les théories du complot et comment ça peut se traduire sur trouver des preuves. Etc. Donc il y a toujours un petit fond intéressant réflexif, tu vois, qui vient après auquel tu penses, tu dis, ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça, ah mais attends, parce que ça m'a fait penser à ça et tout. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est du Quentin Dupieux, c'est du Monsieur Oiseau, puisque
c'est
comme ça sur les réseaux. Donc c'est ça trouvera effectivement, comme dit Laure, son public pour ceux à qui ça plaira.
Globalement, je suis assez d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé le casting, forcément Cohen Chabat, en plus Anaïs Desmoustiers, en plus on y est. Tout ça avec Quentin Dupieux, ça marche forcément. Et je voulais souligner justement ce truc d'animation là où on est dans une ère où il y a de l'IA partout. Avoir le culot de présenter un film en animation PS1 alors qu'on essaye de faire le max de trucs, tout changer, je trouve ça vraiment chouette. Tu voulais rajouter un truc
là? Non, c'est quoi PS1?
PlayStation 1.
Ah d'accord. Pardon, je vous l'avais dit, j'ai pas beaucoup joué au jeu.
Ah,
moi je suis restée à la Game Boy et à la Super NES.
Donc je trouve que c'est culotté et c'est chouette qu'on ait ces culots-là.
Et animé par une petite équipe, réellement, je crois qu'ils étaient trois ou quatre personnes qui ont animé ce film, donc c'était vraiment chouette de voir de l'artisanat, quoi. Tu vois.
Moi, j'ai trouvé surtout niveau scénar, parce que vous n'avez pas le scénar, mais j'ai pas dit, c'était un peu long à démarrer, tu vois, j'ai trouvé ça un peu long à se mettre en route.
Oui.
Et au milieu du film, je me suis imaginé une fin que j'ai trouvée hyper intéressante et c'était pas du tout ça.
Ah, bah écoute,
tu pourras nous la dire en
donc
off.
Je vais appeler Quentin
et
on va refaire cette fin. Non, mais du coup, j'avais une autre fin en tête et c'est super présent ce que je veux dire. Je trouvais ma fin mieux.
Écoute, monsieur Oiseau, si tu nous écoutes.
C'est ça. Mais oui, par contre, Quentin Dupieux, voilà, on sait que c'est clivant. Je pense qu'il y a un public. Moi, j'ai passé. En fait, je pense que c'est un des premiers Dupieux où je suis sortie en me disant, je sais pas ce que j'en pense. Et j'ai eu besoin de le distiller, contrairement aux autres où, oui, ça j'ai aimé, là j'ai pas aimé. Celui-là, j'ai eu besoin de le distiller un peu et j'ai pas passé un mauvais moment dessus. Je me suis pas dit, oh, c'est bon, j'en ai marre, machin, ou quoi que ce soit. Donc, c'était plutôt chouette et je pense que ça peut effectivement trouver son public.
Non, sûr.
Et ben, Le Vertige, c'est toujours en salle si vous avez envie d'expérimenter un petit peu le cinéma français. Je pense que ça peut être une bonne porte, une bonne tentative. Si vous voulez être bousculé aussi, parce que Quentin Dupieux, du coup, avec toutes ces expériences chimiques, il bouscule un petit peu.
<ça. rire>
Et bien, n'hésitez pas à aller voir Le Vertige. C'est le nouveau film, je le répète, de Quentin Dupieux, qui est sorti le 10 juin et qui est toujours au cinéma. Voilà.
C'est parti.
Et c'est sur ce dernier film que nous allons nous dire au revoir.
Déjà.
Déjà. Et encore plein de films. Il y a plein de films en ce moment au cinéma. N'hésitez pas à y aller avec les chaleurs. Les cinémas sont climatisés. Carrément. Donc vraiment, n'hésitez pas, foncez. La semaine prochaine, c'est Poplash que vous pouvez retrouver à 19h sur Radio G. En attendant, nous, là, ce soir, sur le 101.5 FM, on va vous laisser avec un petit peu de musique avant l'arrivée de Rudy's Back dès 20h. De notre côté, on se retrouve dans 2 semaines. Notez bien le 8 juillet et ce sera l'avant-dernier épisode de l'année.
Wow.
Bah ouais, déjà. Durant ces 2 semaines, si on vous manque, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux Instagram clapandchat_radioG ou même sur le site radio-g.fr. Et d'ailleurs, sur le site Radio G aussi, puisqu'on en parle, vous pouvez retrouver tous nos podcasts ainsi que sur les plateformes d'écoute habituelles. Cet outro est beaucoup trop long, donc je vais finir. On se donne rendez-vous le 8 juillet à 19h sur Radio G. Merci à vous, Laure et Kevin, d'avoir été avec moi aujourd'hui.
Bah, merci à toi.
Merci à vous de nous écouter tous les jours. Prenez soin de vous, hydratez-vous et surtout, en attendant la prochaine fois, laissez-vous embarquer par de belles histoires et vivez l'émotion sur grand écran.